Le ministère de la bienfaisance. Table des matières. Préface. Le ministère de la bienfaisance renferme les instructions de l'esprit de prophétie relatives à l'œuvre délicate de toucher et de gagner les cœurs par la bonté manifestée envers le prochain. C'est un moyen d'évangélisation que de nombreux adventistes du septième jour n'ont jusqu'à maintenant que rarement utilisé. Et pourtant, ce ministère institué par Dieu est le mieux approprié pour attirer l'attention des gens sur le Christ et le christianisme. Il promet de riches récompenses. Ellen G. White, l'auteur de cet ouvrage, a non seulement, par des conseils précis, bien définis, exposé en quoi consiste la bienfaisance chrétienne, mais pendant des années, quoique absorbée par ses devoirs domestiques et ses responsabilités comme messagère du Seigneur, elle a donné l'exemple, souvent à son insu, en s'occupant de ceux qui étaient dans le besoin. Le récit autobiographique de son ministère désintéressé, consigné dans son journal et dans ses lettres, comme on le verra dans l'appendice de ce volume, sera lu avec beaucoup d'intérêt et on pourra même en prendre connaissance avec profit avant de lire l'ouvrage lui-même. De toute façon, le lecteur se rendra bientôt compte que le ministère de la bienfaisance, recommandé à l'Église, n'est pas une activité sociale ordinaire, mais une sorte de ministère d'amour, et un des meilleurs moyens de faire connaître l'Évangile. En rassemblant les conseils de l'esprit de prophétie relatifs à cet important travail, on a puisé dans le vaste réservoir des instructions précieuses données au cours de 7 décennies. Ils ont été tirés, non seulement des nombreux ouvrages d'Ellen G. White, mais encore des milliers d'articles parus dans les journaux de notre dénomination, des témoignages imprimés sous forme de brochures et des manuscrits non publiés. Sélectionné ainsi de sources variées, de différentes époques, il comporte inévitablement des répétitions, mais celles-ci ont pour but de faire ressortir certains points importants et vitaux dans le développement complet du sujet. De telles répétitions, bien que réduites au minimum, ne sauraient être tout à fait évitées dans une compilation comme celle-ci. Les compilateurs ont limité leur travail à faire un choix et à présenter ces textes dans un ordre logique. C'est une tâche bien difficile, presque impossible, de réunir dans un ouvrage les nombreuses instructions laissées par Ellen G. White touchant ce genre de travail et de lui donner comme titre « Le ministère de la bienfaisance ». Ce n'est pas chose facile de choisir des matériaux et d'établir une ligne de démarcation entre la visite de voisinage et la visite missionnaire, ou encore de considérer différemment l'œuvre accomplie avec dévouement par des femmes adventistes et celles qui se bornent à poursuivre un objectif missionnaire. Pour l'enfant de Dieu, tout cela est repris dans les différentes activités de la vie quotidienne. Nous attirons l'attention sur certains termes revenant fréquemment dans ce volume, tels que « œuvre médicale missionnaire » et « œuvre du secours chrétien ». Il faut noter qu'une étude sérieuse des écrits d'Ellen G. White révèle que l'expression « œuvre médicale missionnaire » est employée par l'auteur pour désigner des services professionnels de docteurs et d'infirmières consacrés, mais que sa signification va beaucoup plus loin. Il s'agit de tous les actes de bonté désintéressés. Quant à l'expression « œuvre du secours chrétien », elle était plus souvent employée par les premiers adventistes que par ceux d'aujourd'hui. Elle désigne le travail de bienfaisance. Ayant écrit sur plusieurs continents, l'auteur cite la monnaie de l'époque. Parfois, elle parle de dollars, d'autres fois de livres et de shillings. Le lecteur est prié de lire ces instructions dans leur propre contexte et de découvrir les principes compris dans chaque cas. Par exemple, une étude des conseils touchant les soupers de l'Église révélera que bien qu'il y ait une mise en garde contre la satisfaction de l'appétit ou l'amour des plaisirs en tant que moyen de se procurer des fonds pour l'Église, c'est le privilège de celle-ci de s'engager dans la préparation et la vente de produits alimentaires hygiéniques si cette entreprise est bien gérée et s'effectue dans un lieu approprié. À l'exception de cas isolés où une phrase ou deux peuvent énoncer clairement un principe, les compilateurs se sont efforcés de citer un contexte suffisant de chaque extrait pour assurer le lecteur du bon usage de la citation. Chaque fois la date de celle-ci ou de sa première publication a été indiqué en rapport avec la source d'où elle émane. Cet ouvrage a été préparé dans les bureaux du comité responsable de la publication des écrits d'Ellen G. White. Ce travail a été fait en pleine harmonie avec ses instructions à ce comité, qui devait s'occuper des compilations de ses manuscrits, car « ils contiennent », a-t-elle dit, « les instructions que le Seigneur m'a confiées pour son peuple ». puissent celles qui sont contenues dans cet ouvrage et adressées aux adventistes du septième jour, aux laïcs comme aux pasteurs, encourager l'Église à saisir les occasions offertes par les relations du voisinage. Puissent-elles guider chacun de nous dans un service d'amour, consciencieux et intelligent, et faire que par ces directives, une abondante moisson d'âmes soit recueillie dans le royaume de Dieu. C'est le désir sincère du comité de publication des écrits d'Ellen G. White. Section 1. La philosophie divine de la souffrance et de la pauvreté. Le péché a détruit l'amour que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme. L'Église doit le faire revivre, collaborer avec le ciel pour déraciner l'égoïsme qui s'y trouve et lui restituer la bienveillance qu'il possédait dans son état originel de perfection. Chapitre 1er. Pourquoi la pauvreté et l'affliction? Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Deutéronome 15, verset 11. Heureux les miséricordieux. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Jamais une époque n'a nécessité plus que la nôtre l'exercice d'une grande miséricorde. Tout autour de nous se pressent des pauvres, des affligés, des personnes en détresse et qui courent à leur perte. Les hommes qui ont acquis des richesses y sont arrivés en exerçant les talents reçus de Dieu, mais ces talents leur ont été confiés pour soulager les pauvres. Ces dons procèdent de celui qui fait briller son soleil et tomber la pluie sur l'injuste comme sur le juste, afin que grâce à la fécondité du sol, les hommes soient dans l'abondance et aient ainsi tout ce qui leur est nécessaire. Les champs ont été bénis du ciel. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Psaume 68, verset 11. La souffrance et la misère ne sont pas voulues de Dieu. Beaucoup accusent Dieu du fait que la misère et la souffrance règnent dans le monde, mais ce n'était pas sa volonté qu'il en fût ainsi. Il n'est jamais entré dans ses desseins qu'un homme jouisse de toutes les douceurs de la vie, tandis que les enfants des autres meurent de faim. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu a fait des hommes ses économes, et il ne doit pas être accusé d'être l'auteur de la souffrance, des privations et de la misère qui existent sur la terre. Il a pourvu abondamment aux besoins de tous. Il a comblé de richesses des milliers d'hommes pour que ceux-ci viennent en aide à leurs semblables. Mais ses économes n'ont pas été fidèles. Ils n'ont pas soulagé la souffrance et pris soin des nécessiteux. Lorsque des hommes, qui ont été abondamment bénis du ciel et qui disposent d'une grande fortune, n'accomplissent pas le dessein d'en haut, ne soulagent pas le pauvre et l'opprimé, cela déplaît au Seigneur, qui les visitera sûrement. Ils n'ont aucune excuse en ne venant pas en aide à leur entourage avec les moyens dont ils disposent. Dieu est déshonoré et son caractère dénaturé par Satan. Celui-ci représente Dieu comme un juge sévère qui fait souffrir ses créatures. Cette caricature semble être justifiée, et ainsi les tentations de l'ennemi des hommes se font plus fortes. Satan accuse le Très-Haut du mal même qu'il fait commettre aux hommes lorsque ceux-ci gardent pour leur propre satisfaction l'argent qu'il devrait consacrer à soulager la souffrance. Il attribue ainsi à Dieu ses propres caractéristiques. Il ne devrait y avoir ni souffrance ni indigence si les hommes consentaient à accomplir leurs devoirs comme de fidèles dispensateurs des biens du Seigneur. Personne ne souffrirait de la faim ou de l'indigence. C'est leur infidélité qui est responsable de la misère dans laquelle est plongée l'humanité. Si ceux dont le Seigneur a fait ses dispensateurs voulaient consacrer leurs biens aux objectifs pour lesquels ils les ont reçus, la souffrance n'existerait pas. Le Seigneur met les hommes à l'épreuve en les comblant de bonnes choses, comme fut le riche de la parabole. Si nous nous montrons infidèles dans les richesses injustes, qui nous confiera les véritables richesses? Ce sont ceux qui se seront montrés fidèles ici-bas, qui auront obéi au Seigneur en exerçant la miséricorde, en employant leurs moyens pour l'avancement de son règne, qui entendront ces paroles des lèvres du Maître. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Des riches, des pauvres. La raison pour laquelle Dieu a permis à quelques membres de la famille humaine d'être si riches et à d'autres d'être si pauvres restera un mystère pour les hommes jusque dans l'éternité. à moins qu'ils ne soient vraiment en communion avec Dieu et ne se conforment à ses plans au lieu de suivre leurs propres idées égoïstes. Encourager l'amour et la miséricorde. Dans la providence divine, les événements se sont déroulés de telle manière qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous, afin que les hommes s'exercent constamment à la pratique de la miséricorde et de l'amour. Ceux-ci doivent cultiver la tendresse et la compassion manifestées par le Christ. Il ne faut pas qu'ils se séparent eux-mêmes de ceux qui sont dans la tristesse, l'affliction, le besoin et la détresse. Former en l'homme un caractère semblable à celui de Dieu. Si le monde a besoin de sympathie, s'il a besoin des prières et du secours des enfants de Dieu, s'il est nécessaire qu'il puisse voir le Christ dans la vie de ses disciples, les chrétiens ont également besoin d'occasions qui suscitent leur sympathie, rendent leurs prières efficaces et développent en eux un caractère semblable à celui du divin modèle. C'est pour nous procurer ces occasions que Dieu a placé parmi nous des pauvres, des malheureux, des malades et des affligés. Ils constituent un legs de Dieu à l'Église qui doit prendre soin d'eux comme le ferait le Christ lui-même. C'est ainsi que Dieu enlève les scories et purifie l'or, nous permettant d'acquérir cette culture du cœur et cette formation du caractère qui nous sont nécessaires. Le Seigneur pourrait continuer son œuvre sans notre concours. Il n'a besoin ni de notre argent, ni de notre temps, ni de nos services. Mais l'Église a du prix à ses yeux. C'est l'écrin qui renferme ses joyaux, le bercail qui réunit son troupeau, et son ardent désir est de la voir sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il éprouve pour elle une tendresse inexprimable. C'est la raison pour laquelle il nous fournit des occasions de travailler pour lui, et il accepte nos travaux comme gage de notre amour et de notre loyauté. Pour que nous puissions comprendre la miséricorde divine, le pauvre, comme le riche, est l'objet de l'attention et du soin particulier de Dieu. Supprimez la pauvreté, vous n'aurez plus aucun moyen de comprendre la miséricorde et l'amour divin, de connaître la compassion et la sympathie du Père céleste. Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Dieu nous accorde sa bénédiction pour que nous puissions en faire part à d'autres. Lorsque nous lui demandons notre pain quotidien, il regarde si nos cœurs sont disposés à le partager avec ceux qui sont plus nécessiteux que nous. Quand nous prions « Aie pitié de moi qui suis un pécheur », il nous observe pour voir si nous manifestons de la compassion pour ceux qui nous entourent. La preuve que nous sommes en communion avec lui se trouve dans le fait que nous sommes miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Une puissance spirituelle rabougrie. Rien ne sape plus rapidement la spiritualité de l'âme qu'une conduite égoïste. Ceux qui cultivent le moi et négligent le soin des âmes et des corps de ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie ne mangeront pas le pain vivant ou ne boiront pas l'eau de la source du salut. Ils sont desséchés comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Ce sont des nains spirituels qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. C'est parce qu'il néglige de s'occuper des pauvres, ainsi que Dieu l'a recommandé, que le riche devient si orgueilleux, si égoïste, si dur. Il se sépare du pauvre simplement parce qu'il est pauvre, ce qui rend celui-ci envieux et jaloux. Un grand nombre de nécessiteux sont remplis d'amertume, de haine envers ceux qui possèdent tant de choses alors qu'ils n'ont rien. Dieu pèse les actes, et tous ceux qui ont été infidèles dans leur économat, qui n'ont pas porté remède aux maux existants, alors qu'ils pouvaient le faire, ne seront pas honorés dans les cours célestes. Ceux qui sont indifférents aux besoins des nécessiteux feront partie des économes infidèles, et considérés comme des ennemis de Dieu et des hommes. Ceux qui gardent pour eux-mêmes les biens que le Seigneur leur a confiés pour venir en aide aux malheureux, prouvent par là qu'ils ne sont pas en communion avec le Christ. Ils n'ont pas manifesté la tendresse du Sauveur envers ceux qui sont moins privilégiés qu'eux. Si le riche suit l'empreinte des pas du Christ, le riche est un économe de Dieu. S'il marche dans l'empreinte des pas du Christ, dans l'humilité, la piété, il devient, par la transformation du caractère, doux et humble de cœur. Il comprend que ses biens sont des trésors qui lui sont prêtés, et il a le sentiment qu'un dépôt sacré lui a été confié pour venir en aide aux nécessiteux et à ceux qui souffrent, comme le ferait le Christ. Cette façon de se comporter le conduira à déposer ses talents et ses trésors devant le trône de Dieu. Ainsi, le riche croîtra dans la vie spirituelle, comme un fidèle économe des biens du Seigneur. La souffrance, un moyen de former le caractère. Les paroles du Sauveur contiennent aussi un message de réconfort pour ceux qui sont dans le deuil ou le dénuement. Nos épreuves ne sont pas fortuites, et ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et afflige les enfants des hommes. Lamentations 3, verset 33. Lorsqu'il permet à la tribulation ou au chagrin de nous visiter, c'est pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. Si nous la recevons avec foi, cette épreuve aujourd'hui si amère et si lourde se changera pour nous en bénédiction. Les coups du sort qui flétrissent nos joies nous amènent à diriger nos regards vers le ciel. Combien d'êtres n'auraient jamais connu Jésus si la douleur ne les avait poussés à chercher en lui leur consolation? Les épreuves de la vie sont des agents dont Dieu se sert pour discipliner et transformer notre caractère. Il est douloureux d'être par elles taillé, épuré, ciselé, lissé, poli, broyé sous la meule. Mais c'est ainsi seulement que l'on peut devenir une pierre vivante et authentique dans l'Église du Seigneur. Les matériaux ordinaires ne sont pas l'objet d'attention et de soins minutieux, mais seulement les pierres de choix, dignes d'entrer dans l'édification d'un palais. Le Seigneur agira ainsi pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, et, s'ils sont fidèles, ils remporteront de brillantes victoires. Ils recevront de précieuses leçons et acquerront une expérience inestimable. Affliction et calamité ne signifient pas défaveur divine. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, versets 1 à 3. On croyait généralement chez les Juifs que le péché était puni dans cette vie. Toute affliction était considérée comme étant la pénalité de quelque erreur, ou de celui qui souffrait, ou de ses parents. Il est vrai que toute souffrance est le résultat de la transgression de la loi divine, mais cette vérité a été pervertie. Satan, l'auteur du péché et de ses résultats, a poussé les hommes à considérer la maladie et la mort comme un châtiment de Dieu arbitrairement infligé à cause du péché. C'est ainsi que l'on pensait qu'une grande affliction ou calamité ne pouvait s'abattre que sur un grand pécheur. Dieu avait donné une leçon pour prévenir cette idée. L'histoire de Job avait montré que la souffrance est infligée par Satan et est employée par Dieu pour montrer sa miséricorde. Mais Israël ne comprit pas cette leçon. La même erreur pour laquelle Dieu avait repris les amis de Job se répétait chez les Juifs dans leur réjection du Christ. La croyance des Juifs relative au péché et à la souffrance se retrouvait chez les disciples du Christ. Pour corriger cette erreur, Jésus n'expliqua pas la cause de l'affliction de cet homme, mais il leur dit qu'elle en serait le résultat. Les œuvres de Dieu seraient manifestées. « Pendant que je suis dans le monde, dit-il, je suis la lumière du monde. » Puis, après avoir appliqué de la boue sur les yeux de l'aveugle, il l'envoya se laver au réservoir de Siloé, et l'aveugle s'en retourna voyant clair. Ainsi, Jésus répondit à la question des disciples d'une manière pratique, comme il faisait généralement pour ceux qui lui posaient des questions par curiosité. Les disciples n'avaient pas à discuter pour savoir si l'aveugle avait péché ou non, mais ils devaient comprendre le pouvoir de la miséricorde de Dieu manifesté en rendant la vue à l'aveugle. Le Christ doit être vu et entendu par nous. Dieu désire que le malade, le malheureux, tous ceux qui sont possédés par l'esprit du mal, entendent sa voix par notre intermédiaire. Par ses agents humains, il veut être un consolateur, tel que le monde n'en a jamais connu auparavant. Ses disciples doivent faire connaître ses paroles. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Le Seigneur opère par le moyen de tous ceux qui se consacrent à son service, non seulement pour prêcher la parole, mais encore pour s'occuper des malheureux et faire naître l'espérance dans le cœur de ceux qui en sont dépourvus. Nous devons faire notre part dans le soulagement des misères de cette vie. Ces misères sont accompagnées de mystères qui ne sont pas plus clairs à nos yeux qu'ils ne l'étaient il y a des milliers d'années. Un devoir s'impose à nous. « Lève-toi, nous dit le prophète Ésaïe, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60, verset 1. Il y a des nécessiteux tout près de nous, des gens qui souffrent. nous devons nous efforcer de leur venir en aide dans l'Esprit du Christ et par sa grâce. Fortifiés par celui qui est tout-puissant, nous travaillerons comme nous ne l'avons jamais fait. Chapitre 2. La sympathie du Christ pour l'humanité souffrante. Le Christ a souffert lui-même avec l'humanité souffrante. Le Christ s'est identifié avec l'humanité souffrante. Il a repris sa propre nation pour avoir mal agi envers le prochain. Il a déclaré que ceux qui négligent les faibles, ceux qui en abusent ou ceux qui leur témoignent de l'intérêt, font tout cela à lui-même. Il ne nous a pas laissés dans les ténèbres à cet égard. Il a répété maintes fois les mêmes leçons sous différentes formes. Il convoque les acteurs au grand jour des rétributions finales, et il déclare que ce que l'on a fait à l'un des plus petits de ses frères, c'est à lui-même qu'on l'a fait. « C'est à moi que vous l'avez fait, dit-il, ou c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il est notre substitut, notre sécurité. Il se met à la place de l'humanité. Il est affecté comme l'est le plus faible de ses disciples. » Telle est la sympathie du Christ, qui n'est jamais un spectateur indifférent des souffrances de ses enfants. Il n'est aucune blessure, si légère soit-elle, provenant des paroles ou des actes, qui ne touche le cœur de celui qui a donné sa vie pour l'humanité déchue. N'oublions pas que le Christ est le grand cœur d'où provient le sang qui coule dans nos veines. Il est la tête d'où procèdent les nerfs qui aboutissent aux membres les plus insignifiants de notre être. Quand un membre du corps avec lequel le Christ est si mystérieusement associé souffre, la douleur est ressentie par le Sauveur. L'Église ne se réveillera-t-elle pas? Ses membres ne sympathiseront-ils pas avec le Christ de façon à traiter avec tendresse toutes les brebis et tous les agneaux de son troupeau? Par amour pour eux, Jésus, la majesté du ciel, s'est abaissé lui-même. Il est descendu dans un monde plongé dans la souillure du péché. Il travailla jour et nuit pour instruire, relever un peuple ingrat et désobéissant, et lui apporter la joie. Par amour pour les hommes perdus, il se fit pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Pour eux, il se dépouilla lui-même. Pour eux, il endura la privation, la moquerie, le mépris, la souffrance et la mort. Pour eux, il prit la forme d'un serviteur. Il est notre modèle. Ne voulons-nous pas l'imiter? Ne voulons-nous pas prendre soin de l'héritage du Seigneur? Ne voulons-nous pas témoigner une tendre compassion pour ceux qui s'égarent, qui sont tentés et éprouvés? Touché par nos infirmités, le Christ, notre substitut, fut un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il passa toute sa vie terrestre à travailler en faveur de l'héritage qu'il était venu racheter à un prix infini. Il fut touché par nos infirmités. Par son sang versé sur le calvaire, il nous adopte comme ses enfants, il fait de nous l'objet de sa tendre sollicitude. Et pour que nous puissions recevoir tout ce qui nous est nécessaire, matériellement et spirituellement, il exhorte ceux qui font partie de son Église en ces termes. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Le Christ est venu soulager la souffrance. Ce monde est un vaste hôpital. Mais le Christ est venu pour guérir les malades et procurer la délivrance aux captifs de Satan. Il était lui-même santé et force. Il communiquait sa vie aux malades, aux affligés, aux possédés, et ne renvoyait aucun de ceux qui accouraient à lui pour obtenir la guérison. Le Sauveur n'ignorait pas que ceux qui imploraient son secours étaient souvent responsables de leurs maux. Néanmoins, il ne refusait jamais de leur rendre la santé. Quand une force issue du Christ se communiquait à ces pauvres âmes, elles étaient convaincues de péché, et plusieurs étaient délivrées de leur maladie spirituelle aussi bien que de leur maladie physique. L'Évangile possède toujours la même puissance. Pourquoi donc ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats? Le Christ ressent le contre-coup des malheurs de tous ceux qui souffrent. Lorsque de mauvais esprits tourmentent un corps humain, il éprouve les effets de la malédiction. Et si la fièvre dessèche le courant de la vie, il ressent une intense souffrance. Il est tout aussi désireux de guérir les malades aujourd'hui qu'il l'était quand il vivait sur la terre. Les serviteurs du Christ sont ses représentants et ses instruments de travail. Par leur intermédiaire, il désire exercer son pouvoir guérisseur. Seul le Christ a connu tous les chagrins et toutes les tentations auxquelles les êtres humains peuvent être exposés. Nul ne fut plus tenté que lui, et nul autant que lui n'eut à supporter l'écrasant fardeau du péché et des souffrances humaines. Jamais personne ne fut doté d'une puissance de sympathie aussi grande et aussi tendre. Participant à toutes les expériences de l'humanité, il pouvait non seulement compatir, mais encore souffrir avec tous ceux qui luttaient contre la tentation. Le Christ fut riche et pauvre à la fois. Le Christ se fit pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions devenir riches en ce qui concerne le caractère, et comme lui, être une odeur de vie, donnant la vie. En s'identifiant avec les pauvres, il pouvait compatir à leur misère. Son humanité pouvait comprendre leur humanité et les aider à tendre à la perfection en contractant de bonnes habitudes et un noble caractère. Il pouvait leur apprendre comment se faire un trésor impérissable dans les cieux. Il devint un avec l'humanité, participant à ses souffrances et à ses afflictions, afin que, par son caractère exempt de souillure, ses disciples puissent devenir participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde. Le Christ était aussi une joie pour le riche, car il pouvait lui enseigner comment sacrifier ses biens terrestres pour sauver les âmes qui périssent dans les ténèbres de l'erreur. Cultiver la compassion et la sympathie du Christ. Le Christ éprouva une tendre sympathie pour l'humanité déchue et souffrante. Si vous désirez devenir ses disciples, il vous faut cultiver la compassion et la sympathie. Un vif intérêt pour les souffrances d'autrui doit remplacer l'indifférence devant les malheurs humains. La veuve, l'orphelin, le malade et le mourant auront toujours besoin d'aide. Il y a là une bonne occasion de prêcher l'Évangile, de parler de Jésus, notre espérance et notre consolation. Quand le corps souffrant a été guéri et que vous avez manifesté de l'intérêt pour celui qui est affligé, alors le cœur s'ouvre et vous pouvez y verser le baume céleste. Si vous regardez à Jésus, si vous recevez de lui la connaissance, la force et la grâce, vous pouvez communiquer à d'autres la consolation, parce que le Consolateur est avec vous.